Les éditions de l'Avenir présentent Dragon Burger, sauce bichon, de Sylvain Desvaux, avec l'autorisation de l'auteur. Un barbare et un mage qui partent à la chasse au dragon, quoi de plus logique? Par contre, que cette chasse se déroule sous les égouts parisiens, de nos jours, c'est inhabituel. Le réseau de grottes était sombre et humide. Le faible courant d'air aérant les lieux ne suffisait pas à chasser l'odeur de charogne et de moisie typique des lieux confinés qui ne voient jamais la lumière du jour. Angus, une torche enflammée dans une main, une hachette dans l'autre, avançait à pas mesurés, son coutelas de chasse battant contre sa cuisse au rythme de sa progression, pleinement conscient que sa haute stature et son corps bardé de muscles ne lui conféreraient pas un grand avantage dans ces tunnels où il pouvait à peine se tenir debout. Il avait revêtu son vieux homme de cuir, orné de cornes de vachette, après que son crâne eut par deux fois fait connaissance avec le plafond bas et irrégulier. Derrière le colosse, Férémion progressait plus facilement, sa silhouette longiligne étant plus adaptée à ce milieu. Son ample robe aux couleurs vives était souillée par la boue, mais peu lui importait. Son attention était ailleurs. Les deux hommes firent une halte à un croisement.
Alors ?
Demanda Angus avec impatience.
Elle est encore loin, cette bestiole.
Nous nous rapprochons,
répondit Férémion, ses yeux gris regardant au loin, par-delà les murailles de pierre.
Je peux sentir sa peur et sa colère. Elle sait que nous sommes là. Elle hésite.
En tout cas, elle a raison d'avoir peur.
Sourit le colosse en faisant sauter sa hachette dans sa main. Férémion ne fit aucun commentaire. Il indiqua la galerie de gauche. Angus s'y engouffra.
Maudits soient ces foutus gobelins. Leurs galeries sont plus étroites que le cul d'une elfe.
Je doute qu'ils aient creusé ce tunnel. Cela ressemble plutôt à des...
Des galeries naines, je sais, l'avorton. Moi aussi, j'ai vu les runes gravées sur les murs. Il n'empêche que ce sont des gobelins qui vivaient ici. Je le sais à l'odeur.
Tu sais lire le nain ?
Qu'est-ce que tu crois ? J'ai de l'éducation, moi. Tu m'as pris pour un de ces crétins de barbares du Nord.
Du Nord, non. Un barbare, sûrement.
Faut que t'arrêtes de lire tes parchemins, gamin. Si j'étais un barbare, avec ton allure de donzelle dans cette robe trop grande pour toi... Je t'aurais déjà dépucelé, égorgé, et j'aurais bu ton sang tout en pissant sur tes restes.
Ta galanterie et ton grand cœur t'honorent, Angus.
Ça me perdra.
Renchérit le guerrier avec un demi-sourire. Férémion serait dit à cet instant précis.
Elle arrive. Entre la peur et la colère, elle a choisi la colère. Elle vient pour tuer.
Qu'elle vienne donc, je ne la crains pas.
Gronda Angus en plaçant la torche sur un rocher plat, afin de libérer sa main gauche, avant de dégainer son coutelas. Comme une réponse à cette bravade, venue des entrailles de la terre, une formidable clameur se répercuta dans les galeries. Férémion leva les mains devant lui, face à la menace qui se rapprochait. Il psalmodia dans la langue du pays des étranges, se concentrant sur l'effet à obtenir.
Cette fois-ci, fais en sorte que tes tours fonctionnent.
Lâchant nerveusement Angus, sans quitter le tunnel des yeux, ses armes levées à hauteur d'épaule.
« Je n'ai pas envie d'y rester. »
Le mage ne répondit pas, continuant à murmurer des mots sans suite. Soudain, le bruit des griffes cliquetant sur la roche, couplé à celui d'une cavalcade effrénée, se fit entendre. La seconde suivante, une forme massive fit éruption dans le halo de lumière tremblotante de la torche, bondissant sur Ungus dans un rugissement féroce. Le guerrier poussa un cri de rage et frappa de toutes ses forces, déviant la gueule pleine de crocs cherchant à attraper sa gorge. La lame du couteau ricocha sur un manteau d'écaille aussi solide qu'une cotte de maille. La créature, déséquilibrée dans son saut, rebondit lourdement contre la paroi du tunnel, mais se remit aussitôt d'aplomb, faisant face à Ungus, une série de grondements sourds et sonores montant de sa gorge puissante. C'était un dragon des mines. Sa taille et sa silhouette évoquaient celle d'un lion sans queue que l'on aurait recouvert d'écailles de couleur émeraude. Deux ailes atrophiées, souvenir de ses lointains ancêtres qui avaient dominé les cieux et la terre pendant plusieurs éons, battaient faiblement contre ses flancs au rythme de sa colère. Le dragon rugit de nouveau, fièrement campé sur ses quatre pattes dotées de griffes capables de perforer une armure, assourdissant les deux compagnons. Il rejeta la tête en arrière et sa gorge sembla doubler de volume.
« Il va cracher !»
beugla Ungus, sans toutefois esquisser un mouvement de retraite, inutile dans cet espace restreint. Pheremion était prêt. Il hurla un mot de pouvoir en ouvrant sa paume face au dragon.
« Rire !»
qui éructa à cet instant précis un long jet de lave incandescente. La lance de magma se cristallisa et s'effrita en plein vol, transformée en une pluie de minuscules cristaux de givre qui s'abattit sur le sol de pierre en crépitant sans causer le moindre mal. Le dragon en parut totalement décontenancé. Ungus saisit l'occasion et attaqua, levant haut sa hachette en priant pour que les aiguilletés des lieux ne l'entravent pas dans son assaut. Il se jeta de toutes ses forces sur la bête qui tenta de reculer mais se retrouva piégé, son arrière-train coincé contre une muraille rocheuse. L'arme s'abattit en sifflant. Si Ungus ratait son coup et si le dragon se révélait capable de cracher une seconde fois, les deux hommes avaient toutes les chances d'y rester. Fort heureusement, le guerrier n'avait rien d'un amateur. La hachette s'enfonça dans le crâne du dragon avec un bruit sourd, éclatant les écailles et les os, avant de se ficher dans le cerveau en vibrant. La bête s'écroula sur le sol dans un spasme si violent qu'Ungus dut lâcher son arme pour ne pas se démettre le poignet. Elle ne se releva pas. Pheremion soupira.
Une de plus. Procédons à la découpe.
Sous les directives du mage, Ungus se servit de son couteau de chasse pour prélever divers organes et morceaux de viande sur sa victime, qui furent placés dans des récipients que Pheremion transportait dans son sac. Il leur fallut un certain temps pour venir à bout de cette tâche essentielle. Puis, ils prirent le chemin du retour et de la surface. Quand les galeries naines laissèrent place aux égouts, Ungus s'autorisa à rengainer ses armes. Les créatures des profondeurs semblaient peu désireuses d'explorer le cloque immonde des galeries creusées par les hommes sous leur cité, grouillant de rats et de cafards longs comme le doigt. Le guerrier pouvait les comprendre, lui-même était réticent à traverser cet endroit. Il préférait encore l'odeur des gobelins, au moins elle lui paraissait plus naturelle. Les deux hommes utilisèrent une échelle implantée dans un mur. Et émergèrent à l'air libre dans une ruelle sombre, à l'abri des regards, la même qu'ils les avaient vus arriver dans cette grande ville 6 mois auparavant. Ils gagnèrent le boulevard distant d'une cinquantaine de mètres. Ils prirent grand soin de regarder à droite et à gauche avant de traverser, comme Nathalie le leur avait appris. Lors de leurs premières expéditions dans les sous-sols de la ville, la traversée du boulevard, avec toutes ses voitures arpentant le bitume à une allure démentielle, s'était révélée être bien plus périlleuse que leur rencontre avec le dragon des mines. Au loin, la tour Eiffel scintillait paisiblement. Pheremion le regarda avec émerveillement, comme à chacun de ses passages ici. Il n'était toujours pas blasé par la grandeur de ce monde, avec ses tours plus hautes que les clochers du pays des étranges, avec ses voitures, ses gens de couleur, ses miracles technologiques. Angus, lui, n'accorda pas même un regard à la dame de fer. Il haïssait ce monde qui puait, où le simple fait de respirer lui donnait la nausée. Tant d'odeurs inconnues, âcres et désagréables. Sans parler du bruit. Cette rumeur sourde venant de partout et de nulle part à la fois, qui jamais ne cessait. Affronter des monstres dans les sous-sols de la ville était préférable à rester là, dans ce lieu où la nature semblait avoir été domptée par la main de l'homme. Le mage et le guerrier gagnèrent une autre ruelle et frappèrent à une porte quasiment invisible depuis le boulevard. Une jeune femme blonde et plutôt rondelette, vêtue d'un tablier blanc protégeant ses habits, leur ouvrit sans tarder.
« Ah, vous revoilà. La chasse a été bonne ?»
s'inquiéta-t-elle aussitôt.
« Oui, dame Nathalie, »
répondit Férémion avec un sourire. Il aimait se rendre utile et trouvait la femme de leur hôte fort avenante avec son tablier blanc.
« Nous avons dépecé un dragon des mines. Vous devriez avoir assez de viande pour une semaine. »«
Parfait. Dépêchez-vous de la mettre en chambre froide. »
s'enthousiasma Nathalie en s'écartant un peu pour les laisser pénétrer dans les cuisines du restaurant.
« Paul, Angus et Férémion nous ont ramené du dragon. »«
Formidable, on allait en manquer. »
répondit Paul, un grand brun au ventre proéminent, qui arborait un uniforme de chef cuisinier, toque comprise, sans cesser de battre ses œufs en neige. Une petite créature aux yeux d'un jaune chassieux et aux grandes oreilles poilues, vêtue d'un vieux short de sport trop grand pour elle, retenue par une corde, se détourna du plat dont elle surveillait la cuisson sur la vaste plaque chauffante. Une toque était posée de guingois sur son crâne couvert de cheveux aussi fins que ceux d'un bébé, mais bien plus rares. Sa peau était verdâtre.
« Vous pensez à recueillir le sang ? Sang de dragon très bon pour sauce piquante. Très bon, oui, absolument. Très !»
Angus s'approcha de l'humanoïde et lui flanqua dans les pattes, sans douceur aucune, une bouteille de plastique ayant jadis contenu de l'eau minérale, pleine d'un liquide épais et sombre.
« Viens, pourriture gobeline, et retourne à la tâche, avant que le patron ne me demande de t'arracher les dents. Ce que je ferai avec plaisir et avec lenteur. »«
Angus, pas frapper Bichon. Bichon, bon cuisinier, pas le dire. »
Angus se détourna, dégoûté. Dans son monde natal, on ne parlait pas avec les gobelins. On les éventrait, on les pendait, on les ébouillantait ou, à la rigueur, on les utilisait comme sacs de frappe, pendus par les pieds. Mais on ne les laissait ni faire la cuisine, ni parler. Et ce nom ridicule, Bichon, l'on avait donné à ce dégénéré court sur pattes. Férémion et Nathalie étaient en pleine conversation, près des restes du dragon. Angus saisit le mâche par le bras et le traîna derrière lui.
« Plutôt que de jouer au belâtre avec la femme de notre hôte, viens donc m'aider à mettre la viande en chambre froide. »
À cet instant, les portes battantes de la cuisine s'ouvrirent violemment, cédant le passage à un nain aux épaules larges et à la barbe drue, portant une hache dans son dos et un plateau vide dans ses mains.
« Par Barilor, sang de chimère, c'est la cinquième fois cette semaine qu'un de ces foutus humains me demande si je connais Passepartout, un guerrier du Fort Boyard. Si je le rencontre, celui-là, je le scalpe. Un burger au dragon pour la Six. »
Ça marche,
répondit Paul en plaçant une magnette Burger Dragon sur un tableau métallique dans la colonne numéro 6. Le nain s'approcha du comptoir et entreposa quelques plats chauds sur son plateau. Près de lui, un homme de haute taille, à l'allure martiale et décidée, le visage couturé d'une longue balafre, pelait quelques patates à l'aide d'un économe.
« Yoedin, toi, peler des patates? Toi, le héros de tout un peuple? Le survivant de Yann Taël? Que ma hache en soit brisée !»«
C'est ainsi, mon bon ami. En ce monde, le titre de héros ne me dispense pas de la corvée. Où sont tes frères ?»«
En salle, bien sûr. En train de servir de la viande de roi à des porcs qui ne l'apprécient pas. » Et dont on se demande s'ils ont des dents pour la mâcher. Ils avalent la cuisine de Paul d'une goulée, telle des canards. Et je ne te parle même pas de la vinasse qu'ils avalent au litre sans y penser. Quel gâchis! J'en ai l'estomac retourné.
Yoridine sourit tristement et déposa une patate pelée dans le saladier posé à ses côtés.
Non, non et non, je ne tolérerai plus cette mascarade!
Ce cri, porté par une voix puissante et mélodieuse, précéda l'entrée en cuisine d'une ravissante elfe approchant les 2 mètres de haut. Sa peau pâle contrastait avec l'or de ses cheveux blonds qui cascadaient en longues vagues dorées jusqu'à ses mollets. Vêtue d'une robe à paillettes très échancrée à des endroits stratégiques et trop courte de 10 bons centimètres qui mettait en valeur les quelques courbes de son corps longiligne, elle était superbe et son sourire aurait certainement ensoleillé la petite cuisine du restaurant de Paul si Laïlian, princesse elfe de son état, avait été d'humeur à sourire. Elle traversa la cuisine d'un pas altier, le buste haut, droite et fière, faisant tourner quelques têtes, et vint se planter devant Yoedine et Brume.
Yoedine, que signifie ceci?
Demanda l'elfe, en tendant une main diaphane vers le héros. L'homme et le nain examinèrent le bras tendu de Laïlian. Il n'y avait rien à voir, en fait, à l'exception de...
On dirait une piqûre de moustique.
Hasarda Yoedine.
Une piqûre de moustique, oui, une piqûre de moustique. Il n'y a rien qui vous choque?
Le héros et le nain haussèrent les sourcils.
Je suis une elfe par Lianos et Achimir. Une elfe? Les moustiques ne piquent pas les elfes, et encore moins les princesses elfes descendantes en droite ligne d'Aliana et le Bon.
Il y eut un long silence consterné dans la petite cuisine que seule Brume, qui n'avait jamais vraiment su apprécier les valeurs elfes, osa briser.
Attrapons le moustique et pendrons-le. Pour manquement à l'étiquette et à l'honneur de Dame Laïlian.
Quelques rires fusèrent, et Yoedine lui-même lutta pour garder son sérieux, ce qui ne fit qu'ajouter à la colère de la princesse. Ignorant les moqueries de ses pairs, Laïlian serra rageusement le poing et plongea ce regard émeraude dans celui gris du héros d'un autre monde.
Yoedine, cela ne peut plus durer. Voilà 6 lunes que nous sommes coincés dans cette taverne minable à jouer au serveur et au battleur. En ce moustique, je veux voir un signe,
bien.
Il faut.
L'hystérique aux oreilles pointues nous fait encore une crise.
Remarqua Ingus, qui revenait de la chambre froide, suivi de Férémion.
C'est quoi ce que c'est, un furoncle? Un bouton de fièvre?
Mon restaurant n'est pas une taverne minable.
Mais tes clients ne sont pas des princes non plus.
Vous avez été bien content de la trouver, la taverne minable, lorsque vous avez débarqué d'on ne sait où un beau matin.
S'emportant Nathalie, solidaire de son époux.
Depuis 6 mois, on vous fournit le gîte et le couvert. Faudrait pas l'oublier.
Silence, vous tous.
Yoedine avait parlé calmement, sans forcer la voix. Mais tout le monde entendit son ordre et tout le monde se tut. Quand Yoedine, héros de guerre aux victoires innombrables, homme d'art et de lettres, personnage influent dans le pays des étranges, parlait, on l'écoutait. L'homme déposa son économe sur le plan de travail et se redressa de toute sa hauteur, ce qui était insuffisant pour toiser Laïlian du regard, mais peu importait. Son maintien digne et son aura de meneur éclipsaient totalement la présence de l'elfe, qui le dominait pourtant d'une bonne tête.
Il y a 8 lunes, nous avons été chargés d'une mission par le roi du pays des étranges. Mon oncle, Son Altesse Rolandi. Trouver et éliminer la sorcière Magdalena, dont les armées ravageaient nos contrées. Je n'étais pas volontaire, mais la princesse Laïlian est venue me parler et a su me convaincre de réunir une troupe afin d'aller dénicher la sorcière dans son antre. Souvenez-vous des regards pleins d'espoir, des au revoir baignés de larmes. Lors de notre départ de Telnan, nul n'osait croire en notre victoire. Personne n'aurait misé sur nous. Pourtant, nous sommes partis à la recherche de la sorcière, en frère d'armes, comme un seul homme, sans un regard en arrière, en ignorant les pleurs de ceux qui nous aimaient, et laissant partir au devant d'une mort quasi certaine.
Yoedine marqua une pause. Tous ici connaissaient cette histoire, mais ils avaient besoin de l'entendre de nouveau. Les visages étaient pensifs, songeurs. Les souvenirs remontaient à la surface de toutes les mémoires.
Contre toute attente, nous avons trouvé l'antre de la sorcière. Et nous l'avons trouvée, elle, sur ce parcours jonché d'embûches. Nombre d'entre nous ont perdu la vie, mais nous avons avancé, coûte que coûte, car nous savions l'importance de notre mission. Souvenez-vous des batailles, des sacrifices, de ceux que nous avons léchés en chemin. Darn, Kisuna, Emlin, Busser, Ganish, Layanis.
Brume, opina du chef, écrasant une larme au coin de son œil. Lengus lui-même avait croisé des bras sous son torse massif, une expression rêveuse et mélancolique adoucissant les traits de son visage taillé à la hache. Quant à Laelian, elle regardait Yoedin comme s'il était un demi-dieu et inclinait doucement la tête, ses longues mains croisées devant elle.
Puis est venue la confrontation finale. Yusuf le sage affronta Magdalena la sorcière en un duel titanesque au plus profond des cavernes de Malampo. Nous avons vaincu, mais...
Yoedin baissa les mains qu'il avait agitées avec véhémence durant toute la dernière partie de son récit.
Mais la puissance de la magia utilisée a transporté la crypte de la sorcière ainsi qu'une bonne partie des cavernes de Malampour sous cette ville, Paris, située dans un hou et dans un camp qui ne sont pas les nôtres. Nous étions perdus, effrayés, souvenez-vous, nous sommes même cru morts. Heureusement, Paul et Nathalie nous ont ouvert leurs portes et leurs cœurs. Nous leur devons le respect.
Il s'approcha de Férémion et posa une main sur son épaule.
L'apprenti de Yusuf a su composer les glyphes de paroles que tous nous portons sur la poitrine. Grâce à eux, nous pouvons parler le langage de ce monde. Nous avons pu communiquer avec nous autres. Nous payons notre séjour en leur rendant de menus services, en attendant que Yusuf, blessé au combat, se rétablisse. Il dort dans une chambre là-haut, plongé dans un sommeil magique, et nous attendons son réveil. Et quand il se réveillera, il saura nous ramener chez nous. Telle est ma conviction, tel est mon espoir, et tel devrait être le vôtre. À vous tous qui ne cessez de vous lamenter sur votre sort, quand vous êtes bel et bien vivant, et que tant d'autres sont morts.
Il ponctua ce dernier mot d'un coup de poing rageur sur le plan de travail dont il s'était rapproché durant sa diatribe. Le saladier se renversa et les patates pelées tombèrent au sol. Laelian sursauta. Un silence mortifié s'ensuivit, uniquement interrompu par le chointement du beurre oublié dans une poêle. Yoedin, survivant du siège de Yann Taël, homme d'art et de lettres, stratège respecté et guerrier légendaire, reprit place sur son tabouret, se pencha, ramassa le saladier, saisit l'économe et une nouvelle patate, et se remit au travail. Bichon, le gobelin anonyme qui avait accepté de guider une poignée de héros dans le dédale des cavernes de Malampour contre une tomate fraîche, et donc de sauver le pays des étranges, dédaya un peu le sang de dragon dans un verre de lait de vache. Angus, le belliqueux, chef du clan des Hautes Pousses, qui avait vu sa tribu se faire massacrer par les armées de Magdalena avant d'entreprendre un long voyage dans l'espoir de se venger, ramassa un autre quartier de viande de dragon et se dirigea vers la chambre froide en frôlant brume, aîné d'une fratrie de 8 nains, dont 5 étaient morts à la guerre et sur le chemin de l'antre de la sorcière. Laelian, restant un moment immobile, les yeux baissés, se redressa et se dirigea vers les portes battantes que Férémion, orphelin devenu l'apprenti puis le fils adoptif de l'un des plus grands mages ayant jamais vécu, écarta avec respect devant elle. La tête haute, l'allure princière, incarnant toute la grâce et la beauté dont une elfe était capable, ce qui n'était pas peu dire, elle se dirigea lentement vers une petite scène improvisée pourvue d'un système de karaoké sous les regards ébahis des clients du restaurant. Quelques-uns applaudirent. Certains en furent incapables, le souffle coupé à la vue de ces créatures au teint si blanc, aux mains si longues, aux cheveux si blonds et aux yeux si verts qu'elles paraissaient scintiller sous les lumières tamisées de la salle. Les frères de Brume allaient et venaient entre les tables, prenant les commandes, distribuant des plats aux noms plus qu'exotiques. Dragon Burger, œufs de tortue grenouille et autres paniers surprises à la sauce piquante Bichon. L'un d'entre eux s'inclina devant la princesse avant de se hâter vers la cuisine. Laelian lui avait sauvé la vie autrefois. L'elfe se saisit du microphone, sentant les yeux des humains se poser sur elle. Elle prit une profonde inspiration et se lança.
Chers clients, bonsoir et bienvenue à l'Heroic Food. Au menu ce soir, ne ratez pas notre tourne d'eau de raie volante à la sauce de champignons gris. Je suis Leilian et pour vous, je vais chanter quelques chansons de mon pays.
Elle contint ses larmes. Jamais un humain ne l'avait vue pleurer et elle veillerait à ce que cela n'arrive pas.
Vous ne reconnaîtrez peut-être pas la langue, mais n'ayez crainte. La musique n'est-elle pas un langage universel ? Je voudrais dédier cette première chanson à mon frère cadet, Leilianis. Elle s'intitule « Quand nous reverrons-nous ».
Et Leilian de Loerda, princesse du royaume des elfes de Lianeos, archère déception et poète à ses heures perdues, chanta pour ses frères d'armes. À la table 17, un jeune couple devisait joyeusement.
Elle est jolie, non ? En plus, elle chante bien.
Ouais. Mais ça se voit tout de suite que ses oreilles, c'est du latex. Par contre, sympa la robe.
Je regrette pas d'être venue. La bouffe est pas mal non plus.
Je pense que c'est du bœuf. Mais je suis pas sûr. Il y a beaucoup d'épices. Ça se laisse manger en tout cas.
Tout de même, faire un restaurant sur le thème de l'héroïque fantasy. Fallait y penser.
C'est que du marketing tout ça.
Faudra revenir avec Sylvie. Au fait, en parlant de Sylvie, je t'ai pas dit ?
Dans la cuisine, Nathalie se pencha vers Paul et lui glissa dans l'oreille.
En parlant de ça, faudra racheter des somnifères pour le vieux. Hier, il a marmonné dans son sommeil pendant que je changeais ses draps.
T'inquiète,
répondit Paul, dont le restaurant n'avait jamais aussi bien marché.
Je demanderai à mon frère de nous refaire une ordonnance, comme la dernière fois.
Les éditions de l'Avenir vous ont présenté Dragon Burger sauce bichon de Sylvain Desvaux avec Merzeline dans le rôle de Angus, Fred dans le rôle de Férimion, Amy dans le rôle de Nathalie, Quentin Fauville dans le rôle de Paul, Ishigata dans le rôle de Bichon, Christophe Hubert dans le rôle de Brume, Guigui 901 dans le rôle de Yoedin, Carole Bassani dans le rôle de Leilian, Camille dans le rôle de la jeune femme, Aldor dans le rôle de l'homme et Christian Martin à la narration. On retrouve Merzeline, Ishigata et Guigui 901 chez Doublage Libre à doublagelibre.forumactif.com, Fred et Camille chez audiocité.net, Amy, Christophe Hubert et Aldor chez LibriVox.org, Quentin Fauville et Carole Bassani chez littératureaudio.com et Christian Martin aux éditions de l'Avenir à l'avenir-audio.canalblog.com. Les musiques, intitulées « Combat » et « Danger » sont de Christian Martin et ont été composées pour cette production. « Your Gun » est aussi de Christian Martin et on peut la retrouver à www.soundclick.com/bends/defo.cfm.id=80-98-73. Diffusé sous contrat Creative Commons by SA, nous avons utilisé dans la scène de combat le quartet pour cordes 4-4 Allegro de Gustavo Becerra Schmidt, interprété par le Philadelphia String Quartet. Il est disponible à en.wikipedia.org/wiki/wikipedia2.sound/list. Les paroles de la chanson de Leilian sont en Kenya et on peut les trouver à www.ambar-eldaron.com/torsten-ulili-forcé.html. Quant à la mélodie intitulée Molly McAlpin, elle est de Adragand et est diffusée sous licence Creative Commons by NCSA. On la retrouve à www.jamendo.com/fr/album/4071-3. L'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et est diffusée chez In Libro Veritas, www.inlibroveritas.net, sous licence Creative Commons by NCND. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons by NCSA et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.